Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le temps de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct et en public au Salon du Livre à Paris et nous allons converser autour de la question du temps. Du temps tel qu'il se donne à la vie des hommes, des peuples et des sociétés. Nous répétons souvent que le temps est cette sorte de fluide qui transporte tous les objets, qui vieillit les êtres, altère et use les choses, ronge les roches, améliore parfois les sociétés et plus sûrement les vins. Mais dire cela ne suffit guère à révéler sa véritable nature. Qu'est-ce donc au fond que le temps ? N'est-il qu'un mot ? Est-il comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Comme se le représentent les physiciens ? Comme le pensent les philosophes ? Ou n'est-il pas plutôt tout simplement comme le racontent les historiens ? C'est-à-dire une suite d'événements plus ou moins contingents, plus ou moins entremêlés, plus ou moins causalement reliés ? Pour discuter cette question, j'ai invité, c'est un grand plaisir pour moi, il a dit oui.
Il a dit oui,
Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France. Vous vous occupez, Patrick Boucheron, la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Autrement dit, vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance, surtout en Italie, si j'ai bien compris. Et vous avez dirigé la publication d'un très gros livre qui vient de paraître, Histoire mondiale de la France, qui, je crois, est un succès de librairie. Alors, avant de poser ma première question, Patrick Boucheron, je dois vous dire que je suis très intimidé, car moi, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai passé mon bac en 1976 dans une filière scientifique. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'enseignement d'histoire en terminale, encore moins d'épreuve d'histoire au baccalauréat, ni en première, ni en terminale. Ce qui veut dire que mes connaissances en la matière sont fragiles, aléatoires et lacunaires. Et donc, je réclame votre indulgence. Ma première question portera sur la représentation que vous faites du temps. Est-ce que vous l'imaginez comme un personnage ou au contraire comme une sorte d'abstraction? Est-ce qu'il est simplement une suite d'événements? Est-ce que c'est un être actif? Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est cyclique? Est-ce qu'il est linéaire?
Je l'imagine comme vous venez de dire votre rapport à la connaissance historique, c'est-à-dire fragile, aléatoire et discontinue et non linéaire. Et c'est cela, au fond, qui est à raconter par les historiens. Parce que vous venez de dire, effectivement, que c'est ça qui me touche et m'appelle, que les historiens ne pensent pas le temps qu'ils le racontent. Au fond, leur manière de penser est tout entière assumée par le récit, par l'allure de leur récit, par les motifs narratifs qui leur permettent, au fond, de donner à voir l'histoire, c'est-à-dire de rendre sensible, non pas le temps, mais ce que c'est pour le temps de passer, et de passer à travers nous. Et ce « à travers nous », évidemment, le rend fragile, incertain et lacunaire.
Mais dans l'introduction que vous faites de ce livre que je viens de citer, « L'histoire mondiale de la France », vous parlez des rives du temps. Ça sous-entend que vous comparez le temps à une sorte de fleuve. Et on tombe là sur une sorte de paradoxe, c'est que pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut imaginer autre chose dans laquelle cette chose s'écoule et qui ne s'écoule pas. Et donc le temps, il s'écoule dans quoi, pour vous ?
C'est une question qui commence à me faire craindre de me rappeler de ma note de physique au bac, parce que vous parliez du bac, moi je peux très bien parler du mien.
Les physiciens n'ont pas la réponse.
Oui, enfin si, ils ont quand même une forme de réponse qui est celle, me semble-t-il. Enfin,
l'espace-temps.
Oui, qu'au fond, si le temps s'écoule dans quelque chose, c'est dans autre chose que lui, c'est bien ça. Et d'où la nécessité d'en construire les rives ou les berges. Au fond, je ne suis pas sûr que cette image soit autre chose qu'une image. C'est-à-dire la manière, faute de mieux, qu'on a de s'imaginer, c'est-à-dire de rendre compte par la métaphore de ce qui nous saisit, mais qu'on ne comprend pas. C'est Léonard de Vinci qui voit les choses de cette manière, c'est-à-dire un écoulement tempétueux d'un temps qui, comme le fleuve, déborde de son lit. Et c'est Machiavel qui, lui aussi, parce que, comme Léonard, il considère que la politique est l'art de rendre le rythme au monde et donc de retrouver le tempo au fond d'une action politique, C'est Machiavel qui considère aussi le temps comme un fleuve impétueux qui peut déborder. Et vous avez raison de me poser cette question parce que ça pose une interrogation qui nous est commune, au fond, aux sciences exactes et aux sciences humaines, qui est l'usage de la métaphore. Est-ce qu'on métaphorise faute de mieux, ou est-ce qu'on attend quelque chose de la métaphore? Les métaphores du cours, qu'ils soient fluviales ou maritimes, sont les seules disponibles. Au fond, Braudel, est-ce qu'il pensait le temps? Non, il l'imaginait. Il l'imaginait comme une mer. Et regardant la mer, on ne peut pas la voir autrement que, effectivement, dans sa houle, et ça c'est l'événement, dans ses flux, et ça pour lui c'est la structure, et dans ses abysses, et ça pour lui c'est l'histoire immobile. Mais vous, est-ce que c'est autre chose qu'une image?
Mais vous-même, Patrick Boucheron, quand vous pensez au passé, vous le voyez comme une suite, un flux d'événements, ou est-ce que vous le voyez comme une partie de l'espace-temps dans laquelle tous les événements du passé coexisteraient?
Non, je ne le vois pas comme un flux, parce que dans ce cas-là, ça serait se poser la question de savoir où est le passé.
Mais justement,
une fois qu'il est passé.
C'est la question que je voulais vous poser, parce que Wittgenstein, dans le Tractatus, pose cette question d'une façon très troublante. C'est-à-dire, il pose à propos du temps des questions qui sont d'ordre spatial, et on ne sait pas trop comment répondre. Par exemple, il dit, où va le présent quand il devient passé? C'est la première question. Seconde question, où est le passé?
Où est le passé?
Alors.
Où est le passé? Alors, si on se fait une idée, je dirais, germinative du temps, comme une tige qui pousse, alors le passé est juste derrière nous, il n'est pas terminé, il est d'une certaine manière dans la... Nous en sommes le prolongement. Mais nous voyons bien que nous avons aussi nous avons besoin de considérer qu'il y a des ressources, qu'il y a des gisements, qu'il y a des lieux où le passé pèse plus lourd, ce qu'on pourrait appeler des lieux d'histoire, et c'est pour cela que nous tenons tant avec une sorte de ténacité d'enfant, de celle que Walter Benjamin, au fond, assignait à la pulsion collectionneuse. Nous tenons tant à l'idée de patrimoine, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a quelque part des lieux qui pèsent plus que d'autres, parce que ce sont des silos de temps où s'engrange, où s'accumule, où s'intensifie une durée. Et il suffit de voir comment nous traversons les villes. Nous pouvons les traverser en passant, nous pouvons jouir de cette liquidité, être heureux dans cette légèreté, et nous avons aussi besoin de nous arrêter en des lieux qui semblent peser plus lourd sur l'espace-temps. Alors là, je suis en train de métaphoriser comme si j'étais le physicien.
Mais c'est parfait, justement, parce que là, on vient de parler du passé, mais j'ai une question symétrique à propos du futur. Est-ce qu'à votre avis, le futur existe déjà dans l'avenir? Autrement dit, est-ce que les choses sont déjà fixées? Vous dites dans la leçon inaugurale du 17 décembre 2015 au Collège de France, dont le titre était « Ce que peut l'histoire », vous dites « Nous sommes dans l'âge adulte et donc fatigués du prophétisme ».
Oui,
est-ce que ça veut dire que l'incertain est irrémédiable? Le rapport au futur sera toujours incertain?
En tout cas, il faut dire avec conviction et vigueur que les historiens n'ont aucun privilège de lucidité à faire valoir sur ce qu'il peut y avoir de futur, effrayant ou désirable, dans le passé, dans le présent. Autrement dit, ils peuvent faire un diagnostic sur l'aujourd'hui, mais ils ne savent pas plus que les autres, ou mieux que les autres, ce que l'avenir nous réserve. D'une certaine manière, ils sont même peut-être plus et mieux que les autres, conscients que si l'histoire délivre des leçons, la principale, c'est qu'au fond, elle demeure toujours imprévisible. Et pourtant, nous avons besoin, là encore, de penser, ne serait-ce que, par exemple, dans la durée littéraire, que certains écrivains sont déplacés dans leur temps, que Pétrarque, par exemple, parle mieux, a une conversation plus facile, plus agile avec ceux qui vont le suivre qu'avec ceux qui, en fait, étaient ses contemporains. Et c'est pourquoi, effectivement, il conversait avec Cicéron pour justement construire un avenir. Alors, qu'il y ait dans notre présent des éclats comme criblés de passé, on peut le comprendre. Ça ne blesse pas notre rationalité. On le voit, on le sait, on le sent. nous ressentons en fait comme une expérience intime le fait que nous trimballons avec nous du passé, mais qu'il y ait, que le présent soit aussi criblé d'avenir. C'est ce que disait Walter Benjamin. C'est-à-dire qu'il y ait la possibilité, au fond, d'une prophétie. Ça, c'est quelque chose que notre rationalité se refuse à admettre. Et pourtant, il y a des prophètes. Et ces prophètes, effectivement, sont des demi-savants ou sont des maîtres chanteurs, parce qu'ils croient désigner l'avenir, ils croient nous faire croire qu'ils désignent l'avenir, alors qu'en réalité, ils ne veulent que gouverner le présent.
Mais est-ce que ça ne tient pas en partie au fait qu'il y a une façon déterministe de raconter le passé ? C'est-à-dire qu'après coup, on peut raconter la suite des événements comme étant nécessaire, obéissant à une espèce de rationalité reconstruite. Par exemple, Hegel, dans La raison dans l'histoire, dit ceci : la raison ne peut penser et agir dans le monde que parce que le monde n'est pas un pur chaos.
Oui.
C'est-à-dire que la raison est agissante même quand ça ne se voit pas.
Et il y a toujours une logique de l'après-coup. Et on pourra toujours, après-coup, construire, même si elle est brinque-ballante, même si elle est incertaine, une trajectoire. Vous savez, c'est dans au-dessous d'un volcan, la démarche ivre du consul qui est assommé d'avoir trop bu de whisky. Malcolm Lowry dit qu'il a écrit la version ivrogne de la Divine Comédie. Et Malcolm Lowry écrit que voilà, la démarche titubante du consul, eh bien, il va « somehow, anywho », c'est-à-dire que de n'importe quelle manière, d'une certaine manière. Et ça, on le saura dès lors qu'on se retournera. Cette trace qu'il a laissée dans la ville et donc dans le temps, parce que, comme vous avez raison, je peine à imaginer le temps autrement que dans un motif spatial. Elle est incertaine et lacunaire. Elle est fragile. Je reprends votre expression.
Enfin, chez moi, elle est très fragile.
Elle est très fragile, mais elle aura dessiné quelque chose. Mais on le saura après.
Alors, est-ce que, d'après vous, Patrick Boucheron, il faut combattre ce que Lucien Febvre appelait le préjugé de la prédestination, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'histoire d'un pays ne peut être guidée que par un destin national ? Je vous pose la question en pleine campagne électorale pour les présidentielles, où cette idée intervient plus ou moins selon les candidats.
Ben, c'était effectivement le point de répulsion de ce livre dont vous avez parlé, L'histoire mondiale de la France, que j'ai eu l'honneur de diriger. J'étais pas seul, Pierre Saint-Garavelou, Florian Mazel, Nicolas Delalande et Yann Potin m'ont aidé à coordonner 122 auteurs pour une histoire de la France mondiale et non orientée. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas ramener à la pente fatale, inexorable, d'un destin. Alors vous dites national, mais peu importe qu'il soit national, impérial ou mondial. Ce contre quoi on doit lutter, ce contre quoi on doit écrire, si on est historien, c'est pour défataliser le temps. Et donc pour refuser fermement l'idée qu'un destin, quel qu'il soit, individuel ou collectif, consiste à obéir à ses origines. Et c'est très difficile de refuser ça, parce qu'on va à contre-pente d'une tradition très forte en grec, arché, d'où vient notre archéologie, mais d'où vient aussi leurs archontes, c'est-à-dire les généraux qui commandaient les armées.
C'est le principe et le commandement.
C'est le principe et le commandement. C'est le principe et le principe, le prince machiavélien. C'est ce qui nous commence et ce qui nous commande. Mais nous le savons tellement que nous avons la passion de l'étymologie. Nous croyons que la vérité des mots réside dans leur origine. Mais ce n'est pas vrai. La vérité d'un mot réside dans son usage. C'est intéressant de savoir quel est l'usage, quelle est l'origine d'un mot. Mais ça ne nous commande pas, ça ne nous contraint pas. Et donc, l'histoire mondiale de la France est une manière polie, joyeuse, collective, entraînante, engagée, savante, je l'espère, de refuser ce que Marc Bloch appelait l'idole des origines. Mais les idoles, on le sait bien, brise et elles se reconstituent.
Alors chez les physiciens, ça donne, ce sont les conditions initiales qui déterminent la suite de la trajectoire. C'est le déterminisme classique,
c'est
etc.
C'est le principe, oui.
Or justement, il y a dans le numéro de Philosophie Magazine du mois d'avril 2017 qui vient de sortir, un article d'Alexandre Lacroix qui s'intitule « L'histoire en chute libre ». Et il dit qu'aujourd'hui, le bon outil pour comprendre l'histoire, ce n'est pas la physique classique avec son déterminisme newtonien, c'est la physique quantique. Et il dit, les individus et les peuples réagissent à leur propre prédictibilité pour créer la surprise et, par exemple, faire mentir les sondages. C'est-à-dire, plus les sondages sont précis, plus on a une bonne connaissance des opinions et plus ces opinions sont en quelque sorte démenties par la suite de l'histoire. Et la physique quantique fournit un réservoir de métaphores ou d'analogies qui peut être utile. Vous savez qu'en physique, moins on connaît la position d'une particule et mieux on connaît sa vitesse ou son impulsion. Et Alexandre Lacroix fait la transposition au cadre de notre modernité en disant ceci, mieux on connaît la position actuelle d'un individu ou d'un collectif, moins on sait quel acte il va accomplir.
Oui.
Il vote pour Trump alors que les sondages disent le contraire, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous appelez un événement? Est-ce qu'un événement, c'est ce qui, avant d'advenir, est considéré comme impossible? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est sous-jacent au cours de l'histoire et qui finit par surgir dans un événement qui nous paraît singulier, mais qui est en fait déterminé par le passé?
Un événement, c'est effectivement ce qui était... ce qui pouvait être imprévisible, mais ce qui advient de ce qui est advenu. C'est-à-dire que l'événement est inévitablement, comme on vient de le dire, la projection de ce que la mémoire et de ce que la compréhension qu'on a après coup de cet événement va en faire. Mais je reviens à Marc Bloch, justement. Pourquoi Marc Bloch est un grand historien? Pourquoi Marc Bloch fait mentir ce que j'ai dit précédemment, que les historiens ne font pas des bons diagnosticiens du présent? Peut-être parce que mieux que les autres, ou avant les autres, il avait compris ce que la physique quantique, la physique de son temps, changeait dans la conception de la philosophie du temps. Vous avez parlé à votre micro de cette grande conférence de Paul Langevin, de la manière dont chez Bergson, etc., ça rend compte de la révolution en cours. Les historiens se sont, avec beaucoup de retard et de manière très amortie, laissés gagner par cette révolution, parce que, évidemment, elle est destructrice de la certitude de la neutralité de l'observation. Or, on avait quand même construit notre méthode là-dessus. Et ce qu'il y a de magnifique chez Marc Bloch, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut le relire aujourd'hui, c'est que c'est un rationaliste convaincu, obstiné. Il peut même prendre, s'il le faut, des positions qui pourraient paraître ringardes. C'est-à-dire dire que, par exemple, les rois thaumaturges, c'est une erreur collective. Dire qu'une croyance est un bobard, comme il en avait entendu tant en tant qu'il était donc combattant pendant la Première Guerre mondiale. Et quand arrive la Seconde, il use de ce savoir d'historien pour se mettre en travers de la tyrannie qui vient. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, précisément parce qu'il a la capacité, à un moment donné, de faire taire ses scrupules pour réarmer un rationalisme un peu robuste. Et évidemment, dès lors qu'aujourd'hui, on se rend compte avec stupéfaction qu'on doit revenir, d'une certaine manière, à des positions qui sont des positions de défense du fait, de la vérité du fait, puisque ce qu'on appelle la post-vérité est plutôt un post-fact. Hein, c'est ça qui est en jeu. C'est l'indifférence à la réalité du fait. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir effectivement tenir cette position, parce qu'il s'agit bien de ça, tenir cette position, il faudra avoir préalablement pensé la relativité de la prise de position. C'est-à-dire que c'est justement qu'il faut faire comprendre, au fond. C'est qu'une pensée relative, c'est-à-dire qui nous ramène simplement à la relativité de notre point de vue, qui explique tranquillement que nous ne sommes pas autre chose que les autres des autres, ne nous fragilise pas quand il s'agit de défendre la vérité du fait. Au contraire, ça nous renforce. Que la physique quantique n'a pas fragiliser notre monde. Au contraire, l'a rendu effectivement plus intelligible.
De même, la relativité, celle d'Einstein, nous dit qu'on est dépendant d'un référentiel, mais qu'on a quand même affaire à des grandeurs absolues qui nous permettent de penser le passage d'un référentiel à l'autre.
C'est ça.
Excusez-moi, mais vous savez, dans cette émission, il y a une règle. C'est qu'au bout de 20 minutes, on passe un morceau de musique qui a été choisi par l'invité, en l'occurrence vous, Patrick Boucheron. Et il s'agit d'un morceau de la compagnie Rassegna qui s'intitule Flow My Tears. Vous nous le commenterez tout à l'heure, mais on va d'abord l'écouter.
D'accord.
Par la compagnie Rassegna, Patrick Boucheron. J'entends cette musique comme une sorte de superposition quantique entre une musique médiévale et une musique contemporaine. Je me trompe ?
Non, vous n'avez pas tort. Vous savez, c'est pas parce qu'on est historien qu'on aime les vieilleries. Donc moi, la musique ancienne en soi, ça ne me dit rien, sauf si elle est mise en tension. Justement, pas une reconstitution, mais mise en tension, électrifiée au sens propre. Et là, la compagnie Rassegna de Bruno Alari, qui est plutôt normalement, qui travaille les musiques méditerranéennes, mais là, qui ont incorporé à leur répertoire une chanson de la fin du XVIe siècle de John Dowland, qui est une chanson anglaise, eh bien, travaille à faire du neuf avec de l'ancien, ce qui est pas seulement le propre des historiens, mais de ceux qui exercent leur métier d'être humain.
Avant de venir ici, j'ai un peu travaillé, j'ai lu votre leçon inaugurale au Collège de France, dont j'ai déjà parlé, qui est magnifique, et vous dites, puisqu'on parle de musique, je vais parler de rythme, vous dites « L'histoire doit savoir accueillir du même front les lenteurs apaisantes de la durée et la brusquerie des événements. » Est-ce que ça veut dire qu'un bon historien est quelqu'un qui est capable de manier ensemble plusieurs temporalités, plusieurs rythmes différents ?
Et où l'apprendrait-il, sinon justement dans l'art ? Dans l'art et dans la science, parce que l'histoire n'est pas qu'une littérature contemporaine. C'est aussi un art de la durée, du rythme, de l'attente, qui doit être contemporaine de la science, qui est en train de se faire au moment où elle exerce, justement, son acuité sur le temps. Mais d'une manière générale, au fond, cet art du rythme, je reprends bien volontiers ce que Daniel Arras prêtait à la manière de faire de Léonard, hein, les rythmes du monde. C'est une façon aussi de donner consistance à toute une série de rapports que nous avons au temps. Par exemple, à l'attente et à l'inquiétude. Il y a un très bel article d'Étienne Anaïm dans les Annales sur ce que c'est que l'attente dans le rivage des Sirtes de Julien Gracq. Pourquoi Julien Gracq écrit l'histoire ? Pas parce qu'il a un référentiel historique. Pas parce que, d'ailleurs, on ne sait pas trop comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le rivage des Sirtes. On sait que des gens attendent quelque chose avec inquiétude. Et l'attendant, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, ça n'arrive pas. C'est arrivé. Et dans l'histoire des grandes inquiétudes, et en particulier des grandes inquiétudes politiques, au fond, l'art historique, mais qu'il peut effectivement, les historiens peuvent le retrouver, s'inspirer des modèles narratifs qu'inventent les écrivains notamment, consiste à comprendre que d'une certaine manière, les hantises du présent sont souvent, consistent au fond à craindre quelque chose qui est déjà arrivé. Et c'est pour cela qu'on peut, on ne prévient jamais rien, même en l'annonçant, même en le prophétisant.
Dans cette même leçon, vous dites à la fin de votre discours, de temps en temps, l'historien doit casser l'ambiance.
Oui.
Alors, je ne vous demande pas de casser l'ambiance,
mais
surtout pas, mais de nous dire ce que vous entendez par cette expression. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit de dire que la France a un âge ? Est-ce qu'on pose une question stupide ? Est-ce qu'on pourrait fêter l'anniversaire de la France ?
Bah oui, il faudrait au moins... Oui, il faudrait.
Elle aurait quel âge ?
Mais j'en ai aucune idée, et c'est une idée... Enfin, au fond, ça ne m'intéresse pas de
savoir
quelle est la...
C'est ça qui casse l'ambiance.
Oui, ça casse l'ambiance. Et pourtant, il y aura peut-être un moment où il faut... Voilà, il y a des moments où on nous demande des dates.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans l'histoire mondiale de la France, on ne se dérobe pas à la tâche de donner des dates. Parce que,
il y en a 122
Oui, il y en a même un peu plus, 146.
Ah.
Et voilà. Et ce sont des dates à la fois qui sont les dates que l'on attend, les dates que l'on commémore. Hein, voilà, Napoléon, Charlemagne et Charles de Gaulle y sont. Et celles qu'on ne reconnaît pas comme appartenant au récit national. Et ça peut être effectivement déplaisant. Mais je maintiens effectivement qu'un historien ne fait pas son métier s'il ne se montre pas parfois déplaisant. Ça a à voir avec le temps, parce que Benjamin appelait ça être horripilant. Horripilant au sens propre, c'est ne pas lisser le poil luisant de l'histoire, mais le prendre à rebrousse-poil. Et donc ça veut dire faire revenir des choses qui, dans l'histoire, n'ont pas été reconnues. C'est pour cela que je n'ai pas beaucoup de passion pour les anniversaires et les commémorations, et que ça m'intéresse pas plus que ça, que de dire l'histoire, la France est née en telle ou telle date. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que, vous voyez, elle est née ici ou là, de telle ou telle manière, mais on continue à voir ce qu'on n'avait pas reconnu en elle.
Et inversement, il y a peut-être des choses qu'on reconnaît qui n'ont pas vraiment existé, par exemple, et j'espère que ma question n'est pas trop horripilante, la Renaissance, est-ce que ça a vraiment existé ou est-ce que c'est une invention d'historien, en l'occurrence de Jules Michelet ? Vous-même, vous dites que l'histoire est un art des discontinuités. Mais est-ce que ces discontinuités viennent de notre lecture de l'histoire ou de l'histoire elle-même ? Votre chaire au Collège de France, 13e, 16e siècle. Qu'est-ce qui a commencé au 13e ? Qu'est-ce qui s'est arrêté au 16e ? Est-ce que c'est net ?
Non, c'est pas net. C'est justement, c'est une histoire qui n'a ni commencement ni fin. Une histoire qui n'a pas besoin d'être bornée.
Donc vous faites du hors programme.
C'est pas un fleuve qui a des berges. Et c'est le seul intérêt de cet intitulé de chaire, c'est d'éviter Moyen-Âge et Renaissance. Maintenant, on va pas se battre contre des moulins. Parce qu'on peut toujours dire, pour en finir avec la Renaissance, nous n'en finirons jamais avec la Renaissance, parce que nous y tenons trop, et nous y tenons, là encore, d'un attachement enfantin. Et je vous répondrai volontiers, est-ce que la Renaissance existe ? Oui. Est-ce que c'est une invention ? Oui. Et pourquoi existe-t-elle ? Elle existe parce qu'elle a été inventée. Et elle a été inventée comme une création poétique par Michelet. Et l'ayant inventée, il nous la lègue. Et d'une certaine manière, au fond, elle est irrécusable comme la poésie est irrécusable. Si c'était une périodisation, on pourrait en discuter. Si c'est une création poétique, elle s'impose à nous.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
En exergue de votre livre, Patrick Bruchon, vous citez Jules Michelet, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, ce qui a suggéré le titre de l'ouvrage. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose de n'importe quel autre pays? D'où nous vient cette idée que nous aurions, nous les Français, un lien particulier avec le monde, voire avec l'universel? On sent bien qu'il y a des Français qui seraient tout à fait d'accord pour écrire non pas une histoire mondiale de la France, mais une histoire française du monde.
Oui. Ou une histoire de la France mondiale, c'est-à-dire une histoire d'une France qui se projette sur le monde au point de se confondre avec lui. C'est une affaire de durée peut-être, c'est une affaire de temps sans doute. Et c'est pourquoi au fond le geste qui est le geste le plus évident et le plus évidemment profanateur du livre, c'est de faire commencer sa narration à un moment si ancien, la grotte Chauvet, que justement, on ne se paiera pas le ridicule de savoir si les hommes de Cro-Magnon étaient français ou pas. On peut effectivement être embarrassé avec cette question des origines si on commence avec Vercingétorix ou avec Clovis. Mais là, on commence à un temps qui est avant celui de la possibilité même d'une généalogie. Donc ça veut dire, ça s'est passé en France. Et donc, au fond, on ne cherche pas à ramener tout cela à une durée. Mais je vais vous répondre parce que c'est quand même important. Il me semble que une des confusions les plus communes, c'est de confondre l'histoire avec la généalogie, la durée avec la lignée, comme si nous cherchions des ancêtres et comme si ces ancêtres étaient enracinés dans le sol.
Sans ancêtres. Des ancêtres sans ancêtres.
Ou alors, si nous voulons vraiment être des arbres, eh bien imaginons-nous comme des arbres inverses. C'est ainsi que on disait au Moyen-Âge, l'homme est un arbre à l'envers qui a ses racines au ciel, parce que d'une certaine manière, il se déploie et il se déploie dans la diversité de ses origines, de ses appartenances et de ses désirs. Donc je ne vois pas ce que l'on détruit ou ce que l'on rapetisse en disant ça. On est juste au fond plus tranquillement, plus calmement ressemblant avec l'idée, non seulement l'idée, pardon, avec les pratiques sociales, avec l'histoire de ce pays, avec la manière dont nous faisons société.
Et vous dites aussi qu'une partie de l'histoire de France raconte l'histoire des rendez-vous manqués. Mais qu'est-ce que ça peut être un rendez-vous manqué pour un historien? Ça veut dire qu'on fait une expérience de pensée en imaginant que tel événement dont on sait qu'il s'est produit aurait pu ne pas avoir lieu, ou l'inverse?
Oui, et c'est pour cela que l'histoire ne se ramène pas simplement à ce qui a été, mais ce qui aurait pu avoir été. Et ce qui, toutes ces promesses non tenues, toutes ces potentialités inabouties, qui ne demandent au fond qu'à être relevées. L'histoire de ces futurs non advenus, Quentin de Lehermoz et Pierre Saint-Garavelou l'ont reconsidéré avec dans un livre récent sur l'analyse contrefactuelle. Le contrefactuel, c'est quelque chose qui peut paraître très littéraire, qui ramène l'histoire à la fable, mais qui en fait aussi est le plus scientifique. Puisque comment construire une hypothèse sinon en imaginant un contrefactuel?
C'est-à-dire que vous autorisez des expériences de pensée.
Mais comment ne pas le faire? On le fait tout le temps. Simplement, ces expériences de pensée, dans l'histoire contrefactuelle, plutôt qu'être implicites, elles sont explicites. Si je raconte, même dans un récit qui refuse évidemment de fabuler, qui dit les choses telles qu'elles ont eu lieu, mais par exemple, prenez, quand Mona Ozouf raconte la fuite à Varennes, le moment où Louis XVI quitte le 20 juin 1791 effectivement la France, et qu'il ne réussit pas et qu'il revient, on ne peut pas, pour comprendre l'événement, on ne peut pas ne pas reconstituer implicitement ce qui se serait passé si ça avait réussi. Et donc un raisonnement en termes de causalité historique doit bien, comme hypothèse, comme expérience de pensée, justement poser des contrefactuels pour justement tester la solidité, la robustesse de la causalité.
Je vous ai dit, Patrick Bourcheron, que j'étais un piètre historien, j'ai joué carte sur table, mais quand même, je sais que 1515, c'est Marignan. Et j'ai lu dans votre livre les 6 pages qui sont consacrées à cette bataille, qui sont rédigées par une personne qui a un nom charmant, Amable Sablon du Corail.
Oui.
J'aimerais m'appeler comme ça.
Ben oui,
c'est raté.
Vous ne m'appelez pas comme ça.
Et la question, c'est d'où vient que cette date et ce nom Marignan sont si importants dans l'inconscient collectif des Français, alors que peu de personnes sont capables de raconter l'histoire réelle telle qu'elle est racontée dans votre ouvrage, qui montre que les enjeux que François Ier avait en tête ne sont pas tout à fait ceux qu'on raconte d'ordinaire.
Ça, c'est un petit peu mystérieux, parce que, de fait, les guerres d'Italie, dans lesquelles s'insère effectivement cet événement un peu obscur du règne de François Ier, sont sorties du roman national. On voit pas trop, justement, dans cette construction de la France, ce que vient faire cette diversion péninsulaire de ces rois de France qui, plutôt que de travailler patiemment à construire le territoire national, viennent en Italie faire des rêves d'empire. Et pourtant, peut-être simplement par, je dirais, le charme de la rime, 1515, Marignan est rentré, sinon dans un récit, du moins dans un souvenir. Et ça, c'est très mystérieux. Est-ce que c'est important 1515 ? Bah écoutez, je vais vous donner un exemple. Avant de diriger cette histoire mondiale de la France, j'avais dirigé en 2009 une histoire du monde au XVe siècle. Et il y avait également une chronique. Et il y avait également 1515. Et il y avait marqué 1515, les Portugais entrent dans le port de Hormuz. C'était évidemment une provocation. Mais ça veut dire que, vu du monde, 1515, c'est beaucoup de choses, mais c'est assurément pas Marignan. Vu de France, on peut considérer encore que 1515 est Marignan. Donc, l'histoire mondiale de la France ne fait pas de provocation inutile. Tous les rendez-vous ne sont pas manqués. Nous nous rendons au grand rendez-vous de la mémoire. Mais nous nous y rendons différemment et nous tentons de subvertir un petit peu ce souvenir, ne serait-ce qu'en racontant ce qui s'est passé. Et comme vous le dites, bien peu savent que ce qui se passe, par exemple, en 1515, c'est ce qui aura une grande importance dans l'histoire militaire du XVIe siècle, le fait que les Suisses sont, à ce moment-là, considérés comme les soldats de l'Europe. Et qu'est-ce que c'est que le modèle suisse ? Eh bien, c'est le modèle de la nation en armes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à admirer des systèmes de mobilisation d'armées citoyennes. Et ça, ça aura une importance dans l'histoire.
Alors que du côté de François Ier, un soldat sur 5 seulement parle français.
Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on voit bien que le crible national est imparfait pour saisir ces situations qui sont complexes. Parce que, d'une certaine manière, ce sont deux armées très disparates en tout cas plurilingues qui se battent à Marignan.
Vous le savez, Patrick Bourcheron, cette émission s'appelle la conversation scientifique. On doit parler un peu de science. Et vous savez, les physiciens, ils comprennent de mieux en mieux le passé lointain de l'univers. On comprend mieux aujourd'hui qu'on comprenait il y a 50 ans. D'ailleurs, il y a 50 ans, on ne comprenait pas du tout. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les historiens ? Est-ce que les événements historiques sont de mieux en mieux compris par les historiens à mesure que le temps passe ? Il y a deux choses qui sont en compétition. Le temps passe, donc ces événements ont tendance à s'évanouir, à tomber dans les limbes du passé. Et en même temps, nos connaissances sur eux ont tendance à augmenter. Qu'est-ce qui l'emporte ? Est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est l'oubli ?
Au moment où on parle et au moment où, effectivement, on pose un fait historique, il faut croire au progrès des sciences historiques. Il faut défendre l'idée qu'il y a un développement des connaissances et que ces connaissances, elles sont cumulatives. Dans ce livre, par exemple, il n'y a pas que des historiens. Il y a aussi des sociologues, des anthropologues, des archéologues. L'archéologie, C'est quand même une science qui est robuste du point de vue de ses résultats et de ses méthodes. Avant d'avoir fouillé, on n'a pas fouillé. Une fois qu'on a fouillé, on peut avoir compris ce qu'on ignorait jusque-là. L'archéologie, elle permet aussi de comprendre que le mouvement naturel de la compréhension historique, il est régressif, il va toujours à rebours. Il part de l'affleurement le plus récent d'un passé ancien, la mémoire, pour effectivement forer vers les profondeurs. Donc oui, un progrès des sciences historiques. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on ne devrait même pas avoir à justifier le fait qu'on refuse de réciter l'histoire comme on le récitait pendant la Troisième République. On ne devrait même pas avoir à le dire, parce que si on demandait ça à un biologiste ou à un physicien, on le pousserait à la faute professionnelle. Mais en même temps, nous savons qu'être historien, c'est savoir que le présent n'a pas toujours raison sur le passé et que l'avenir nous donnera tort. Ça ne nous empêche pas, à un moment donné, d'affirmer que dans l'état actuel des connaissances, c'est plutôt cela qui construit un fait vrai.
Et moi, je vous dis que dans l'état actuel de l'émission, c'est le moment de passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi.
Parce que j'écoute ça en boucle en ce moment, donc là j'avais peur de passer une heure sans avoir...
C'est une très bonne raison.
C'est par précaution.
J'aime beaucoup parler de science avec vous et je voulais avoir votre commentaire sur un propos d'Henri Poincaré. Poincaré, grand physicien, grand mathématicien aussi, qui dit ceci: en histoire, on dit « Jean sans peur est passé par là », mais pour la science, ce qui importe, c'est qu'il n'y repassera pas. Autrement dit, le passé a cette propriété d'être absolument impossible à modifier et à répéter.
J'aime beaucoup ça. Ça me plaît énormément.
C'est la causalité.
Pour les deux raisons.
Le passé est intouchable. Ce qui peut changer, c'est notre façon de décrire.
Oui.
Mais lui, on ne peut pas le changer.
Exactement. Ça veut dire ce que Carlo Ginzburg disait très bien. La science auquel l'histoire peut se rapprocher le plus sûrement, c'est la médecine, parce que c'est une science des singularités qui ne comprend au fond les phénomènes qu'à partir d'indices, de symptômes. Et un symptôme, c'est juste la trace, l'empreinte dans le temps que quelque chose s'est passé et que ça ne repassera pas. Et dès lors, je pense que les sciences peuvent se ramener à deux branches en fonction du temps, pardon de m'aventurer sur un terrain qui n'est pas le mien. Mais il y a effectivement des sciences qui travaillent sur des phénomènes qui ne sont pas reproductibles. Et c'est le cas de la climatologie, c'est le cas d'une partie de la physique, c'est le cas d'une partie de la biologie.
D'une grosse partie de la cosmologie.
Voilà. Et il y a des sciences qui travaillent sur des phénomènes qui sont reproductibles et que l'on peut effectivement provoquer par l'expérience. Il y a des sciences expérimentales et des sciences indiciaires. Et c'est intéressant, me semble-t-il, de raisonner comme ça, parce que ça veut dire que les sciences historiques, eh bien, rassemblent beaucoup plus de discours qu'on ne l'imagine, et que ce rapport à l'histoire qui passe et ne repasse pas, eh bien, distingue dans ce qu'on appelle communément des disciplines, par exemple la biologie du développement, avec une biologie expérimentale. Et ce sont deux approches du vivant, mais l'une va au fond décrire une évolution, une histoire, comme il y a une histoire du climat, comme il y a une histoire de l'univers, et l'autre va décrire des phénomènes qui peuvent se répéter dans leur sérialité. Or, voilà, l'histoire...
Mais quand ils se répètent, c'est pas absolument à l'identique, et c'est pas au même moment, par définition du cours du temps.
Voilà, alors c'est là où vous avez à nous apprendre des choses.
Une anagramme qui a été trouvée par Jacques Parisselkov et que je voulais vous proposer. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Pas pour anagramme, la vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable.
Magnifique.
Voilà.
Magnifique, on pense à la vague qui, effectivement,
qui fait
sur le rivage...
Et qui détruit les châteaux de sable.
Mais aussi le visage de l'homme à la toute fin des mots et des choses de Michel Foucault.
Ah oui, oui, absolument. Il parle de l'eau, de la marée qui vient défaire.
Qui vient défaire
les frontières.
Voilà.
Alors, dernière question à propos de la science au Moyen Âge. Roger Bacon dit la nature a horreur du vide. Et j'ai lu quelque part, c'est pas sous votre plume, qu'on a considéré que cette horreur du vide, c'était presque une force physique. Et on interprétait le fait qu'une bouteille d'eau se brise sous l'effet du gel comme étant le fait que on croyait à l'époque. L'eau solide occupe moins de place que l'eau liquide, ce qui est faux. Hein, la glace est plus volumineuse que l'eau liquide. Et on pensait que quand l'eau devient glace, eh bien, elle se contracte, ce qui laisse des espaces vides dans la bouteille. Et la bouteille, ou la nature plutôt, préfère casser la bouteille plutôt que de laisser le vide s'installer. Est-ce que c'est vrai ça qu'il y avait cette compréhension
Oui, c'est une compréhension, mais qui est une compréhension lacunaire et fragile, là encore.
Surtout la bouteille,
et qui repose toujours sur une prémisse qui est une prémisse que nous savons fausse, mais qui est pourtant, au fond, je dirais, la structure anthropologique d'ensemble au Moyen-Âge, des sciences comme de tout le reste, comme de toute existence, qui est l'analogie. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui est de considérer que les savants, au fond, sont dans la même structure anthropologique que leurs contemporains. Et c'est pas parce qu'ils s'appellent Bacon, c'est pas parce que ce sont des illustres savants de l'université d'Oxford que, au fond, ils ne sont pas pris dans ce schéma de pensée. Alors, ce schéma de pensée consiste à poser comme principe que, par exemple, du point de vue de la circulation d'un fleuve, nous en parlions tout à l'heure, eh bien l'eau circule dans les veines de la terre de la même manière que le sang circule dans celui du corps et comme les humeurs circulent dans l'univers. Et par exemple, ce qui nous fascine chez Léonard de Vinci, c'est cette pensée analogique. Mais il faut comprendre que cette pensée analogique chez Léonard, elle bloque au fond toute possibilité de progrès scientifique, parce que la science, c'est pas seulement le décloisonnement des savoirs. Parfois, il faut, au contraire, recloisonner les disciplines pour pouvoir avancer, si bien que ce touche-à-tout de génie qu'est Léonard, contrairement à l'idée reçue qu'on en peut avoir, eh bien, il ne prophétise pas la révolution scientifique. D'une certaine manière, parce qu'il est irréductiblement analogique, il la bloque, il la retarde, il la freine.
Et est-ce qu'il n'y a pas des situations, par des gros choses, dans lesquelles ce que nous vivons au présent rétroagit sur notre façon de comprendre le passé? C'est ce qui s'est passé, en tout cas pour ce qui me concerne, quand j'ai lu l'article de votre ouvrage pour la date 1892. Il est expliqué que en 1887 est parue une petite brochure de 40 pages intitulée « L'indicateur anarchiste » qui a été traduite en plusieurs langues et dans laquelle on expliquait comment transformer la nitroglycérine qui venait d'être découverte en bombe artisanale. Tout cela a alimenté la vague d'attentats anarchistes des années 1890-1890, à une époque où l'État républicain apparaissait comme l'ennemi des classes laborieuses. Et puis il y avait toutes sortes d'affaires, un peu comme aujourd'hui, l'affaire des décorations, le scandale de Panama. Et ces affaires ont alimenté l'idée d'une violence légitime contre un État qui ne l'était plus. Et en juillet 1894, il y a eu ce projet de loi anti-anarchiste, les lois scélérates, et Jaurès a proposé un amendement que je vous lis. Seront considérés, ou devront être considérés, dit Jaurès, comme ayant provoqué aux actes de propagande anarchiste tous les hommes publics, ministres, sénateurs, députés, qui auront trafiqué de leur mandat, touché des pots de vin et participé à des affaires financières véreuses, soit en figurant dans les conseils d'administration de sociétés condamnées en justice, soit en prenant les dites affaires par la presse ou par la parole devant une ou plusieurs personnes. Fin de citation. Est-ce que là, quand il y a une sorte de correspondance, on ne rétroprojette pas le passé dans le présent dans le passé plutôt?
En tout cas, vous l'avez lu et vous avez lu Jaurès sans le commenter, mais vous voyez bien que ça donne un autre son aujourd'hui. Mais Jaurès l'a vraiment dit, donc on ne rétroprojette rien. À se souvenir des attentats anarchistes en 1892-1894, à se souvenir qu'à ce moment-là, la société française, confrontée à la violence politique, était devant un dilemme qui est: comment est-il possible, pensable, souhaitable de restreindre nos libertés publiques pour défendre notre sécurité? On ne truque pas le passé, ça a eu lieu. Mais de fait, nous sommes historiens, et être historien, c'est inévitablement poser les questions d'aujourd'hui au passé. C'est pour ça que la démarche régressive est naturelle l'historien. C'est pourquoi Marc Bloch, ce rationaliste irréductible qu'est Marc Bloch, n'avait pas peur de dire que l'anachronisme est constitutif de la connaissance historique. Et c'est important de dire ça, et ça me fait plaisir que vous citiez cet article qui est dû à la plume de Jenny Raflick, parce qu'aujourd'hui, justement, l'arrogance du présent, c'est aussi le fait qu'il nous impose une concordance des temps obligée. Nous sommes obsédés par le précédent des années 30. Mais il est intéressant aussi de travailler cette structure de la fin des années 1890, avec effectivement les attentats anarchistes, avec l'affaire Dreyfus, avec la Grande Dépression, avec le populisme de Boulanger, et avec ultimement des grands bouleversements, à la fois du point de vue littéraire, c'est la crise symboliste de la poésie, et du point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on a une sorte de déstabilisation de l'idée même qu'on puisse faire récit du monde. Et ça, c'est effectivement ce que ce souvenir de 1892 aujourd'hui suscite cette réflexion.
C'est pour ça peut-être que vous dites que nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos. Avec cette idée que l'histoire serait le contraire de l'actualité ou son contre-pied.
Oui, mais du repos, pas pour nous reposer, pour agir. Du repos pour trouver la force nécessaire à réarmer une action positive. Du repos parce que on comprend bien que ce qui est le plus démobilisateur, c'est au fond l'effervescence inutilement embrouillée et électrique d'une actualité surchauffée. Et donc, au fond, cet appel au calme, c'est ça qu'on a voulu faire dans le livre Histoire mondiale de la France. C'est au fond, ensemble, un groupe d'historiennes et d'historiens, rendre visible le travail de l'histoire, qui est un travail du temps, un travail de la durée, et un travail qui, au fond, ne se peut réaliser que dans le calme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler à la radio, là où on doit en parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas adresser ce discours. Ça ne veut pas dire que ce discours est cadenassé dans un espace savant. Au contraire, il ne vaut que s'il est socialement contrôlable. Alors qu'on discute, alors qu'on parle, mais qu'on parle effectivement dans une arène qui est l'arène qu'on aura construite des hypothèses recevables. Et ça, c'est de la science. Voilà. Et il va falloir aujourd'hui tenir cette corde raide de défendre les usages démocratiques de l'histoire tout en rappelant, quand il faut le faire, que c'est pas de l'opinion, que c'est un travail, que c'est une profession, que ça exige de la patience et surtout énormément de modestie. Et que ça se met en avant de toutes les tentatives d'hystérisation du présent.
Vous disiez tout à l'heure que l'histoire est une discipline qui, par construction, progresse. Est-ce que ça veut dire que nous devons aussi faire progresser notre rapport à l'histoire ? Je veux dire par là que j'ai lu quelque part, je ne saurais pas dire où, mais que vous avez dit que le défi qui est devant nous, ou devant la gauche, est celui de réarmer l'idée de progrès. Il faut réinventer, dites-vous, une manière d'y croire à nouveau et de mener la bataille des idées. Mais pour croire au progrès, il faut élaborer une philosophie de l'histoire. C'est-à-dire il faut pouvoir configurer le futur d'une façon qui soit attractive, qui soit crédible, pour faire l'effort de faire advenir ce futur qu'on désire.
Oui,
est-ce que c'est pas ce qui manque ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'innovation que de progrès.
Oui, parce que l'idée de progrès est compromise. Si on veut bien se souvenir que au XVIIIe siècle, eh bien, elle conjuguait le progrès économique, le progrès scientifique, le progrès des mœurs et le progrès politique. Et pourtant, effectivement, nous savons bien que ce que c'est un, au fond, c'est un combat commun que nous avons à mener, sciences exactes, sciences humaines, sciences sociales, contre une déstabilisation en fait du régime de vérité. C'est quand même sérieux. Et d'ailleurs, les journalistes sont aussi embarqués dans la même galère, si j'ose dire. Et donc, comment faire ? Eh bien, justement, en ne choisissant pas entre le versant littéraire et le versant scientifique d'une histoire qui, par nature, et depuis bien longtemps, a eu la littérature comme rivale et la science comme espérance. C'est-à-dire que les historiens rêvent avec Michelet et travaillent avec Cénobos. Ils ont construit leur méthode robuste, professionnelle, sur un petit tas de techniques d'artisans minutieux de la preuve. Et c'est une science. Et à tout prendre, c'est une science qui n'est pas beaucoup plus inexacte que d'autres qui sont expérimentales. La vérité d'un fait historique peut être aussi sûrement assuré qu'un fait physique, en attendant évidemment la controverse, en attendant l'expérience. Mais elle ne viendra pas n'importe où et elle viendra dans l'espace réglé et pacifié.
J'ai une dernière... c'est une devinette que je voudrais vous livrer, Patrick.
Je suis nul en devinette.
Et ben justement,
je donne ma langue au chat.
Qui a dit on continue à apprendre et on n'arrêtera jamais, on ne peut pas tout savoir ? Quel est un peu votre message ?
Je ne sais pas.
C'est Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones.
Ah.
Voilà, c'était...
Un grand savant.
C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Emmanuel Morse-Tincan et à la réalisation Jean-Christophe Francis.